La première.
13h30, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes au soir du 6 mars 1967 à l'ambassade américaine de New Delhi. Chester Bowles, l'ambassadeur, est malade, il est cloué au fond de son lit quand on vient lui annoncer qu'une femme a pénétré à l'intérieur des bâtiments. Cette étrangère d'âge moyen demande l'asile politique, mais surtout, elle prétend être la fille de Joseph Staline. Vérifier que Staline a bien eu une fille, ordonne-t-il à ses collaborateurs, et si oui, que fait-elle en Inde? Les dépêches partent pour Washington, la CIA câble immédiatement les renseignements demandés. 40 ans, 2 enfants, diplôme universitaire, divorcé. La fille de Staline se prénomme Svetlana.
Un jour dans l'histoire.
13h30, 14h30 sur la première.
Le même homme qui était cruel envers les membres de sa famille, sans merci pour ses ennemis politiques, pouvait être bon et tendre avec son enfant préféré.
Voilà, extrait d'une interview de Svetlana, donc Aliloyeva, qui est la fille de Joseph Staline. Et pour retracer ce parcours hors norme, ce destin tragique, Beata de Robien est avec nous. Bonjour Beata de Robien.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraît chez Albin Michel et qui s'appelle « La malédiction de Svetlana ». C'est le dimanche 28 février 1926 à Moscou qu'elle vient au monde. Elle est la plus jeune enfant et la seule fille de Joseph Staline. Elle est née du second mariage du dictateur avec Nadejda Aliloyeva. Ça n'est pas une enfant désirée, en tous les cas au départ la grossesse n'était pas désirée.
Oui, c'est ce qu'elle prétendait Nadejda Aliloyeva, parce qu'elle voulait s'émanciper. Mmh. Elle voulait devenir une femme éduquée et elle s'est inscrite à l'Académie industrielle de Moscou. Et ça tombait mal parce qu'elle ne voulait pas exhiber son ventre parmi tous ses étudiants. Elle n'a pas avorté, alors qu'elle avortait plusieurs fois, et puis aussi après la naissance de Svetlana. Et son père adore tout de suite cet enfant. Ça sera l'enfant le plus
choyé,
dorloté par son père, comme si les deux autres garçons n'étaient pas de lui.
Ouais. Alors, la naissance de Svetlana, Joseph Staline est bien sûr sous les plus hautes marches du pouvoir, secrétaire du Parti communiste soviétique à partir de 1922. Il dirige l'URSS à partir de la fin des années 20. Alors, quel enfant cette petite fille va-t-elle avoir auprès de ce père qui est hors norme et qu'elle ne, évidemment, elle n'imagine pas encore qui il est, mais quelle enfance a-t-elle?
Pratiquement une vie d'une dernière princesse du Kremlin. Elle est dorlotée, elle est sa chose, elle est avec la mère qui est un peu sévère, les pères lui passent tous les caprices. Ça commence comme ça. Il lui dit ordonne, ne demande pas. Tu ordonnes et tout le monde va t'obéir. On peut déjà imaginer l'avenir d'un enfant élevé comme ça.
Ouais. Un jour d'automne, parce que ce destin, cette enfance heureuse et joyeuse va basculer, un jour d'automne qui est sombre et pluvieux, comme vous le racontez dans votre ouvrage, on fait revenir Svetlana, qui était à la campagne, on la fait revenir au Kremlin. La gouvernante allemande lui annonce qu'un grand malheur est survenu. On est là le 8 novembre 1932.
Donc l'anniversaire de la révolution d'octobre, ouais. qui est un événement, une fête incroyable encore aujourd'hui.
Auquel a participé, enfin il y a eu des défilés, et sa mère y a participé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Et il y avait une dispute qui a éclaté entre elle et son mari, qui est furieusement jaloux, et qui l'a vu danser dans les bras d'un de ses parrains. Lui-même qui fait la cour à une actrice et il lui jette des morceaux de pain dans son décolleté pour faire enrager sa femme. Staline a toujours joué sur la jalousie des femmes. C'est ce qui l'amusait le plus. C'est pas un homme à femme, mais c'est un homme qui aime à tisser la jalousie et l'envie chez les gens qui l'entourent. Nadia n'a pas supporté ça. Elle a claqué la porte. Une borde d'injures l'accompagne. Elle rentre dans sa chambre. Et elle s'est tuée avec un petit pistolet que son frère lui a apporté d'Allemagne. D'ailleurs, ce frère, après, il sera assassiné par Staline.
Ce n'est évidemment pas ce qu'on va raconter à la petite Svetlana.
Non, on lui a dit que sa mère est morte d'une crise d'appendicite. Ouais. Et elle découvrira la vérité 10 ans après, parce qu'elle elle parle anglais. Son père a encouragé la langue anglaise parce que bon, la Russie à ce moment-là est alliée. Ça se passe pendant la guerre. Et elle lit un journal anglais où elle découvre comme un fait établi que sa mère s'est suicidée. Donc elle réagit, mais bande de menteurs, comment osez-vous me cacher si longtemps la vérité ?
Ouais, pendant 10 ans, donc, on lui a caché la vérité. Revenons à ces années, donc les années 30. Merci camarade Staline pour notre enfance heureuse. C'est ce qu'elle chante, la petite fille, avec tous ses camarades à l'école. Et puis à l'adolescence, les relations vont un petit peu se tendre avec son père, Joseph Staline, notamment pour des raisons de code vestimentaire, etc.
Vestimentaire d'abord.
Dur, hein.
On oublie que Staline, c'est un homme du Sud. C'est pas sans rappeler un peu les comportements de Moyen-Orientaux. Les jambes nues de sa fille les rendent fous furieux. Quand ses petits seins pointent derrière d'un débardeur, il trouve ça indécent. Ouais. Il trouve que sur une photo, elle a, où elle sourit timidement et avec beaucoup de charme, il trouve que c'est aguicheur. Il y retourne la photo avec un mot « traîné ».
Le destin de Svetlana, la fille de Joseph Staline. Nous sommes avec Beata de Robien.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30 sur la première.
Aux archives centrales de Moscou sont conservées les copies carbone de lettres de Joseph Staline à Svetlana. Elles témoignent d'une relation affectueuse entre père et fille. Cette lettre de 1931 en est un bon exemple. Svetlana, alors âgée de 5 ans, donne des ordres à son père, exigeant qu'il l'emmène au cinéma voir une comédie américaine. Le dictateur signe « J'obéis à la petite gouvernante, Joseph Staline ».
Voilà donc ici un extrait d'un documentaire d'Arte, Svetlana Liloulieva. C'est pas facile hein, les noms en russe, Beata de Robien. La fille de Staline donc. Alors avec la guerre en Europe, l'heureuse période de l'enfance de Svetlana est terminée. Le dimanche 21 juin 1941, elle apprend que les troupes allemandes viennent de pénétrer en Union soviétique. Et pourtant, elle n'a pas peur.
Parce qu'elle n'y croit pas. Pour elle, l'Union soviétique est invincible. C'est comme ça qu'on l'a élevée. C'est comme ça qu'on lui a inculqué ça déjà à l'école. Et elle croit à la supériorité de l'Union soviétique. Elle pense, bon, papa Staline va fusiller quelques généraux qui veulent pas se battre et on va gagner. Et les premiers chocs, c'est quand son demi-frère, Yakov, il est pris prisonnier. Ouais. Elle pensait qu'il va revenir, alors qu'elle apprendra un jour que son destin tragique qui s'est jeté sur le grillage de Hoflag allemand.
Et puis, le 14 octobre, les choses vont s'envenimer, les bombes tombent sur Moscou, une partie du théâtre du Bolchoï qui est vraiment un symbole de la puissance de la ville et de la Russie. Qu'est-ce qu'elle devient, alors, Svetlana? Il faut l'éloigner.
Alors, elle crame d'abord parce que son père lui dit il faut que tu quittes Moscou et ils doivent partir à Kouybechev. Elle crame, elle dit non, je veux pas partir sans toi. Mais Staline a déjà pris sa décision. Lui, il veut rester. Ouais. Il veut être l'homme d'acier. Lui, il veut montrer qu'il ne bougera pas parce que le départ, l'exil a quelque chose, un parfum d'échec. Elle part finalement quand une bombe tombe sur son école. Toute sa troupe est là, toutes ses gouvernantes, ses cuisiniers, sa nounou, tout le monde l'accompagne. Elle va vivre pendant un an et demi à Kouybechev. Puis, c'est là où elle tombe sur cet article dans les revues anglaises sur sa mère, et elle veut à tout prix s'expliquer avec son père.
Elle, en avril 1922, les raids sur Moscou cessent, la ville reprend progressivement la vie habituelle. En juin, Staline permet à Svetlana de revenir. Elle a évidemment beaucoup mûri. Il y a évidemment cette révélation dans cette revue anglaise que vous évoquiez. Quand est-ce qu'elle comprend, au fond, Svetlana, qui est, ou quand est-ce qu'elle commence à comprendre qui est son père?
La première choc, après cette première mensonge qu'elle a découvert, c'est quand elle tombe amoureuse d'un cinéaste, Alexei Kapler. Il a 40 ans, elle a 16 ans. Donc c'est une lycéenne qui sort avec un homme adulte, marié. Aucun père ne serait content d'une chose comme ça, même s'il s'appelle pas Staline. Ouais. Mais ce qu'elle va... ce qui va être un choc, un bouleversement pour elle, c'est que son père va l'envoyer pour 10 ans au goulag. Et il y a aussi une autre chose. Il la prend par les bras, il la met devant un miroir et il dit « Regarde-toi dans le miroir, qui voudra de toi ? C'est moi qui veux approcher, c'est pas qu'il est amoureux de toi. » Et ça, c'est une bassesse la plus odieuse. Aucune femme ne peut s'élever d'une telle accusation.
Elle va se marier plusieurs fois.
Elle va se marier plusieurs fois. Elle se jette sur les premiers venus. C'est un ami d'enfance de son frère, donc il s'appelle Grigory Morozov. Il est un bon communiste, pionnier, il s'active dans les mouvements mais communiste ou pas, il est juif. Et Staline est profondément antisémite.
Ouais. Et il va pousser Svetlana pour qu'elle rencontre de ses proches, ou en tout cas des jeunes gens qui lui-même adoube.
Il la poussera, il n'a pas intervenu vraiment pour le divorce de Svetlana, mais Svetlana s'ennuyait beaucoup dans ce mariage. Et il n'était pas assez surprenant, ce jeune homme de 22 ans, il n'était pas assez bout en train. Et ils ont quand même un enfant. Et elle va avoir son deuxième mari. C'est un mari, c'est un peu arrangé. C'est pour plaire à papa. Ça va être les fils de Jdanov. C'est Yuri Jdanov qu'elle va épouser. Et là, c'est encore un mariage complètement raté. Ils vont avoir une fille, Katia. Mais ça va se terminer très très rapidement.
Et on reviendra tout à l'heure à un autre mariage encore de Svetlana aux États-Unis. On est toujours là dans les années 50, le 5 mars 1953, c'est une date évidemment extrêmement importante pour le cours de l'histoire de l'humanité. Joseph Staline, le petit père des peuples, meurt après une agonie effroyable. Plus tard, Svetlana dira « Dieu n'accorde une mort douce qu'au juste ». Mais sur le moment, Svetlana est très peinée par la mort de son père.
Elle est très peinée et elle pense que c'est une tragédie, pas seulement pour elle, c'est une tragédie pour toute l'Union soviétique et pour le monde entier.
Ouais. Et elle va errer dans ce palais là, pendant quelques jours, quelques mois.
Quelques temps, elle va jusqu'à là où il y aura un bouleversement dans sa vie, ça va être le rapport de Khrushchev. Parce que quelques jours avant que Khrushchev le rende public, pas public parce que c'est à huis clos dans ce congrès de 20e congrès du parti, et elle est convoquée chez Mikoyan, dans sa datcha. Elle ne sait pas très bien pourquoi on vient de la chercher. Elle arrive, tout émue, la limousine qu'on lui envoie, l'asile. Et on lui donne un plic de papier. Elle dit « Lis ça, et après on discutera ». Elle s'enferme dans une chambre, elle lit, relit, et descend... Tout le monde s'attend qu'elle s'évanouisse, qu'elle pleure. Elle est très lucide et elle dit « Vous savez, je crois que tout est vrai. »
Alors qu'est-ce qu'il y a ? Alors on est le 24 février 1956. Qu'est-ce qu'il y a en résumé,
il y a des mots qu'elle ne comprend pas comme culte des personnalités. Il y a des phrases qu'elle découvre, que Khrushchev dit « Parfois on arrivait chez Staline en ami pour un dîner ». Et on ne savait pas si on va rentrer chez soi les mêmes jours. Staline obligeait la torture. si, il disait si un tel n'avoue pas, passez-les aux fers. Et tout ça, elle se rend compte, elle fait les liens avec Kepler, elle commence. Et elle a la disparition de ses tantes, de ses oncles, de ses cousins. Et elle fait un lien. Et elle commence à se rendre compte que Staline est maître de destin de milliers de gens.
Kepler, d'ailleurs, hein, Alexis Kepler, qu'elle va revoir, hein, d'ailleurs, après 1953.
Elle n'aurait pas dû. Parce qu'on sait que ces gens-là qui ont vécu un enfer ne peuvent plus revenir en arrière, ne peuvent plus avoir cette innocence qu'il avait la première fois quand il l'a rencontré. Donc elle court à un autre désastre. Mais nous les lecteurs, nous, les observateurs de sa vie, on le voit, mais pourquoi pas elle ?
10 ans après, donc il revient du goulag, ils auront une liaison et puis voilà, ça va se terminer encore une fois. Kepler se mariera. 1956, donc vous l'avez dit, c'est une rupture dans la vie de Svetlana.
Et sa vie devient très très dure à ce moment-là parce que tout le monde se détourne d'elle.
On va voir qu'elle va renoncer d'elle-même à un certain nombre de choses. Nous sommes avec Beata de Robien.
The woman once known as the little princess of the Kremlin arrives in America from Switzerland. Svetlana, the 42-year-old daughter of Soviet dictator Joseph Stalin, sought asylum here.
I'm dreaming about the time when two countries, two great countries, Russia and the United States, could become really friendly and people could have free contacts and travel here and there.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Voilà l'arrivée de Svetlana Allilouyeva, donc elle a pris le nom de sa mère, hein, aux USA en 1967. Je rêve d'un temps où ces deux grands pays, les États-Unis et la Russie, deviendront des pays amis. On va arriver bien sûr à cet exil de Svetlana aux États-Unis. Avant cela, Beata de Robien, il y a une rencontre qui est très très importante en 1963. C'est celle qu'elle fait avec Brajesh Singh, qui est un membre du Parti communiste indien. Comment, dans quelles circonstances se déroule cette rencontre?
Il est fils de Raja, mais en même temps, il est communiste. Et les communistes du monde entier considéraient que la médecine russe est la meilleure du monde. Donc, il vient se faire soigner. D'ailleurs, Torres ou d'autres, ils sont venus plusieurs fois. Et les communistes italiens et français, ils sont venus, même les Américains, ils sont venus en Russie. Et ils se sont rencontrés à l'hôpital où elle s'est fait enlever les amygdales. Mmh. Et lui, il a, tu vois, quelque chose dans les polypes dans le nez. Et il rôde avec ses morceaux d'ouate qui lui sortent du nez. Ça doit être vraiment très romanesque, comme vous imaginez. Il se rend compte. Et elle lui parle anglais. Pour s'exercer, elle parle très bien anglais. Bien, on a entendu ça dans les documents. Ouais. Et il commence à avoir une liaison. Elle veut se marier avec lui, parce qu'elle veut toujours se marier. On ne sait pas très bien pourquoi. Elle pense que c'est beaucoup plus stable. Comme si elle cherchait une stabilité, pas seulement la stabilité, mais une sécurité. Mmh. Et le gouvernement de Brezhnev et Kosygin disent niet. Et là, elle est indignée. Comment l'Union soviétique a déjà abrégé l'interdiction des mariés avec les étrangers. Pourquoi les autres ont droit et pas moi? Parce qu'elle ne comprend pas quel est symbole encore. Mmh. Ouais. Et puis, donc elle va pas pouvoir se marier avec lui. Donc elle va partir en Inde avec ses cendres. Ouais,
parce qu'effectivement, Brajesh Singh meurt à Moscou en 1966. Il a une maladie de cœur et elle va tout faire pour pouvoir reconduire ses cendres en Inde. Ce n'est pas une chose facile non plus. Hein.
Ah non, elle a plusieurs lettres au Kremlin qu'on envoie. On lui dit non et finalement, elle commence les convaincre que ce sera un séjour très court, disons de 7 ou 10 jours. Ouais. Elle arrive à Delhi, elle est tout de suite encadrée par les KGBistes qu'on a envoyés avec elle, et aussi par l'ambassadeur et tous les employés de l'ambassade. Elle est logée aussi dans un hôtel qui appartient qui est un annexe de l'ambassade soviétique à Delhi. où je suis allée voir comment était la chambre et l'ambassade.
Et puis, eh ben, les choses se passent différemment de ce qui était prévu. Alors, on ne le sait pas vraiment. Est-ce qu'elle avait déjà, à votre avis, Beata de Robien, prévu de, en tout cas, de ne pas rentrer en URSS?
Sûrement pas. Je pense pas du tout, parce que toutes les décisions que prend Svetlana Aloulieva sont sur un coup de tête. Elle est très impulsive. C'est une des caractéristiques pour elle. C'est ses décisions sont comme ça. Et bon, elle est très coléreuse. Certains de ses détracteurs diront comme son père, mais elle a surtout ses côtés impulsifs et elle fonce, elle réfléchit après. Elle n'a pas imaginé un moment que ça va être une tsunami médiatique, que ça va être vraiment un tremblement de terre.
Elle reste 2 mois en Inde et où elle n'est pas la bienvenue, il faut bien le dire.
Parce qu'elle tombe dans un moment où c'est toujours la politique qui se mêle dans sa vie privée, c'est-à-dire elle arrive au moment où l'Inde a vraiment besoin de l'Union soviétique économiquement et politiquement.
Et puis arrive
Indira Gandhi qui dit non, pas question.
Donc elle doit trouver une autre solution, Svetlana, et donc il y a ce fameux soir du 6 mars 1967. Elle pénètre dans l'ambassade américaine, et là c'est la stupéfaction parce qu'on ne
on connaît savait à peine même pas son existence. Que Staline avait une fille. Ouais. C'était toujours caché.
Alors que font les États-Unis?
Alors, il y a un décalage d'horaire qui joue en sa faveur. C'est-à-dire, ils comprennent très vite les dangers qu'elle court, et donc il faut la faire sortir de l'Inde. Il y a un seul avion qui part ce soir-là, et donc elle part où? À Rome. Mais là, Fanfani dit nié. Non, c'est pas question, parce que Fanfani a besoin, il est ministre, il a besoin de votes communistes italiens. Donc elle n'a même pas pu descendre dans les rues. Elle sera logée dans un petit appartement qui appartient à la CIA. Et là, on lui trouvera une solution, c'est qu'on va l'envoyer en Suisse. Mais là encore, comme touriste, parce que la Suisse n'a pas envie d'elle, mais personne, aucun pays n'a envie d'elle. De Gaulle a dit non plus. Parce que on est en train de recoller un peu les morceaux. La guerre froide, on veut calmer les jeux. Vajniev se prépare à un sommet à Vienne. Donc, elle est vraiment pas bien vue nulle part.
C'est un personnage très embarrassant. Elle arrive à New York tout de même le 21 avril 1967.
Mais pas comme réfugiée. Mmh. Elle arrive comme auteur de ses mémoires.
Ouais. Et c'est là qu'elle va faire une conférence de presse. Et c'est évidemment, comme on dit aujourd'hui, un buzz médiatique. Et elle embarrasse toujours tout le monde.
Elle embarrasse toujours tout le monde parce que d'abord, elle a, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est cette guerre froide qui a le temps pour qu'elle s'arrête. Parce que aussi, elle n'a pas compris ce que ça veut dire l'opinion publique. Et puis, troisièmement, elle n'a pas compris ce que ça veut dire l'argent. Parce qu'elle a toujours vécu sans argent. Alors qu'elle arrive comme une femme très riche. Ses droits d'auteur sont du montant de 3,5 millions de dollars. Ce qui, si on regarde l'inflation d'aujourd'hui, ça correspond à peu près à 25 millions de dollars. Donc, on a de quoi vivre à cette époque encore, vraiment dans l'opulence. Mais quand elle ne comprend rien, ce qui représente l'argent, elle va les gaspiller, elle va les distribuer. D'ailleurs, c'est une des très jolis traits de caractère, c'est qu'elle est très généreuse.
Il faut préciser qu'elle a laissé ses 2 enfants derrière elle à Moscou.
Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui... Elle va ressentir cette culpabilité pendant tout le temps de son séjour aux États-Unis. Mais son fils a déjà 22 ans, il est déjà marié. C'est pas des petits-enfants à la maternelle. Mais sa fille a 16 ans, dans un autre pays. Elle aurait pu les rejoindre, il aurait pu les rejoindre. Donc, c'est une fois de plus, c'est un système politique qui ne permet pas ça.
Elle va épouser un architecte américain, William Peters. Ils auront une fille ensemble, Olga, en 1971. Ils se séparent 2 ans plus tard. Elle va passer quelques temps en Angleterre, aussi à Cambridge. C'est un peu une vie d'errance qu'elle vit entre ces
années-là. Oui, elle a déménagé 39 fois. Ouais.
Et puis en 1984, elle décide de rentrer en URSS, d'abord pour un temps limité.
Elle ne sait pas, elle pense que c'est presque définitif, parce que ses enfants lui manquent tellement. Et puis elle a encore la grande politique avait joint sa vie privée, parce que c'est assez orchestré, ce retour. C'est son fils avec lequel elle n'a pas de contact, et à chaque fois on l'interdit, ses contacts. Il lui téléphone un jour, elle ne sait même pas comment il a eu son numéro de téléphone. Donc, et qui lui dit, bon, maman, appelle-moi quand tu veux. Et puis elle commence vraiment à rêver de cette réunion de famille. Mais la réunion de famille heureuse n'aura pas lieu.
Et puis ce pays, elle ne va plus le reconnaître, elle va s'y sentir mal au fond.
Oui, mais on ne comprend pas non plus pourquoi elle rejette l'Occident. Alors que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend pas. Elle dénonce maintenant l'Amérique. De même terme qu'elle a dénoncé avant l'Union soviétique.
Ouais. Elle rentre en tous les cas aux États-Unis en 1986.
Oui, ça c'est grâce à Gorbatchev. Il y a déjà Glasnost, Perestroïka, le régime
dissout un peu.
Et parce qu'après Moscou, elle est partie en Géorgie, mais la Géorgie, elle ne la connaît pas, la Géorgie. Donc elle ne pouvait pas trouver sa place là non plus.
Et elle va vivre une vie assez désœuvrée au fond aux États-Unis. Ouais. Elle, qui avait
et puis surtout,
riche.
Elle va mourir dans un asile pour les gens pauvres, sans un sou. Ouais. Il faut dire que son mari américain, ça c'était encore un autre roman, il l'a ruiné complètement.
Ouais. Elle a dû payer une grande partie de ses dettes d'ailleurs à ce mari américain. Vous pouvez retrouver ce destin tragique, tourmenté, comme vous le dites, Beata de Robien, dans cet ouvrage La Malédiction de Svetlana, qui paraît aux éditions Albin Michel, avec tisser effectivement ce que vous faites très bien, ce destin particulier, et puis la grande histoire, notre histoire à tous. Merci beaucoup Beata de Robien d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
13h30, 14h30.
Un jour dans l'histoire sur la première.